Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de l'année. Je suis très heureux de conclure cette saison avec vous. Le parcours fait ensemble m'a réjoui et j'espère qu'il continuera. Pour cela, je vous le dis et je vous le répète, j'ai besoin de votre aide. Merci. Alors, c'est pas des sous que je demande, mais je vous remercie d'avance de relayer, de faire connaître ce travail. Vos suggestions sont également toujours les bienvenues pour produire un contenu original quand il le faut, une pointe d'humour. À cet égard, je tiens à rendre hommage à Ignace, qui a ceci de particulier, c'est qu'il met son talent, et Dieu sait qu'il en a, au service des causes justes. Et c'est très précieux à l'heure où la plupart des artistes privilégient leur ventre à leur conscience. Je suis donc très heureux qu'il ait accepté de travailler avec moi. Pour ce qui est des nouvelles de notre activité du blog, eh bien sachez que j'ai l'honneur de publier depuis quelques jours sur MPI, Mediapresse Info. N'hésitez donc pas à relayer ces articles aussi. Une fois de plus, le podcast sort avec un petit peu de retard en cause une émission qui n'a pas pu se faire et un virus saisonnier qui m'a cloué au lit. Vous savez tout, ou presque. Le sujet du podcast n'est pas très heureux à l'approche de Noël, je le concède. Cependant, nos adversaires, dont le principal qui rôde comme un lion rugissant, ne nous laisse pas de répit. C'est donc Alba Ventura à qui je donne la réplique. Encore une qui va avoir ici son ronde serviette, si j'ose dire, puisque elle est déjà venue dans le podcast de septembre pour insulter les cafards que nous sommes. Eh bien, elle est de nouveau là, puisqu'elle s'est récemment illustrée en parlant de l'euthanasie et du suicide assisté. Je vous avais prévenu. Comme vous le verrez, elle est dans son rôle de petit commis du camp du bien, à qui elle sert la soupe assez maladroitement. Mais ce qu'Alba ne sait pas, c'est qu'il existe le balado de la réplique, puisque chez ces gens-là, monsieur, on ne réplique pas. Eh bien si, ici, on réplique. Alors, je vous retrouve tout de suite.
Alba en liberté, le regard d'Alba Ventura sur un fait d'actualité. Vous vous souvenez de Stéphane Hessel ? Stéphane Hessel, c'est cet écrivain, diplomate, résistant, qui avait fait parler de lui il y a une quinzaine d'années, avec ce fameux manifeste sur l'indignation, on s'en souvient. Bon, sa veuve vient de nous quitter. Christiane Hessel Chabry, elle a décidé de mettre fin, elle-même, à sa vie en Belgique.
Oui, alors j'ai même à vous parler de la mort parce que c'est pas le sujet le plus facile à aborder. Surtout, j'ai hésité à partager ce texte avec vous parce que moi-même, j'ai pas une opinion fixée sur la fin de vie. Je crois que tant qu'on n'y est pas confronté, c'est difficile de se positionner, même si on a des convictions très fortes. Quand on a un conjoint, un parent, etc., peut-être qu'on peut dire ce qu'on va faire, mais ça reste difficile. Et j'ai trouvé que Christiane Hessel, à 96 ans, avait laissé quand même un beau texte. Alors attention, c'est un texte très militant, dans lequel elle explique son choix d'avoir opté pour l'euthanasie, c'était donc samedi en Belgique, seul moyen, dit-elle, de disparaître dignement.
Premièrement, un journaliste, c'est là pour informer, et pas pour donner son opinion. Donc, ce que pense concrètement de la mort Alba Ventura, très franchement, on s'en cogne. Parce que je ne vois pas pourquoi Alba Ventura aurait davantage que tout autre le droit de donner son opinion sur tel ou tel sujet. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des journalistes qui ne sont pas là pour informer, mais tout simplement pour donner leur avis, ou pour être plus exact, pour nous indiquer ce que doit être notre avis. Hein. Voilà. Vous savez, en Suisse, il y a ce qu'on appelle la feuille d'avis officielle. Eh bien, là, nous sommes un peu dans le même cas de figure. Non, je plaisante, bien sûr, puisque l'avis officiel en Suisse, c'est simplement une feuille de communication locale des communes mise à disposition dans les lieux publics. Quand vous allez au bistrot en Suisse, ben voilà, le tenancier vous donne, il vous le doit. C'est la loi qui l'oblige à vous mettre à disposition gratuitement un verre d'eau et la feuille d'avis officielle. Bon, j'arrête là mes digressions. Donc, Alba Ventura nous dit qu'elle n'a pas d'avis, mais que tout de même, c'est un texte très militant. Or, quand on relaie un texte militant, c'est qu'on a un avis. C'est qu'on milite. Mais attardons-nous un instant sur cette personne de Christiane et celle Chabry, dont je suis sûr vous n'avez jamais entendu parler. Bon, rassurez-vous, moi non plus. En réalité, elle n'est relayée que pour deux raisons. Un, elle est la femme de feu Stéphane Hessel, et deux, elle milite pour l'euthanasie. Alors, Alba Ventura, bien sûr, enfonce une porte ouverte en disant qu'il est difficile de se prononcer tant qu'on n'est pas soi-même confronté. Ouais, la belle affaire. Alors, pourquoi mettre en avant le sujet si, bêtement, si on n'en a rien à dire? Eh bien, parce que, pour manger, Alba Ventura doit faire avancer un agenda maçonnique et mondialiste. C'est un peu un pléonasme. Hein. Mais on va s'attarder sur Stéphane Hessel, sur les aisselles, en fait. Parce que sous les aisselles, ça sent mauvais. Alors, Stéphane Hessel, donc disparu en 2013, est un diplomate et militant mondialiste. Toute sa vie, il a été proche du pouvoir, donc École alsacienne, lycée Louis le Grand, normal, comme c'était sa génération, il a été résistant, il était prisonnier un an, il finira d'ailleurs par s'évader en substituant son identité à celle d'un détenu mort du typhus, hein, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa fiche Wikipédia. En tout cas, toute la vie de Stéphane Hessel, c'est la social-démocratie mondialiste. Il est bien récompensé par diverses décorations, la Légion d'honneur, le prix Jean Zay, qui disait que le drapeau français était un torche-cul. Voilà, ça c'est la prose de Jean Zay. Donc, il a vécu très vieux, Stéphane Hessel, très riche et très con. Il a deux publications, « Indignez-vous et engagez-vous ». Et vous êtes sommé, bien entendu, d'aimer. Je me rappelle à l'époque où c'était sorti avec beaucoup de fastes et de relais médiatiques. Hein, interdiction, même maintenant, d'en dire du mal, alors que Stéphane Hessel, c'est incontestablement un sale type prétentieux. Je le sais, puisque je l'ai rencontré. Hein, grand donneur de leçons devant l'Éternel. Et c'est donc sa femme qui vient de calancher à 96 balais, et comme ces gens-là ont le mal chevillé en eux, eh bien, elle n'a pas voulu partir sans faire de sa mort un acte militant pour le droit de tuer. Oui, parce que l'euthanasie, ce n'est pas le droit de mourir, c'est le droit de tuer. C'est pas le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit de tuer dans l'indignité. En réalité.
Alors, je vous lis ces quelques lignes. Je me suis posé la question. Mon geste était-il une trahison à l'égard de ceux que j'aime et qui m'aiment? Pour moi, cela représente un geste de liberté et de réaction à l'égard de la pusillanimité de la France au regard de la mort assistée autorisée dans de nombreux pays voisins. La société est en pleine évolution. On vit aujourd'hui trop vieux et mal, au-delà du supportable. Je me sens l'âge de partir avant d'être un poids pour les autres et la société. C'est un droit de disposer de soi-même. Il est grand temps que la loi évolue en France et j'espère que cela se fera dans un esprit de tolérance et de respect. Voilà, elle tenait à dire, avant de quitter ce monde, qu'elle trouvait que notre pays était trop frileux sur ces questions, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté.
Celle qui nous dit « nous vivons trop vieux » a vécu jusqu'à 96 ans dans l'opulence, d'accord ? Mais Christiane Essel Chabri nous interpelle sur plusieurs points. D'abord, la trahison des proches. Et le droit de disposer de soi-même. Parce que dans nos sociétés individualistes, nous avons tendance à croire que notre petite personne ne concerne que nous. C'est oublier un peu vite que de notre naissance à notre mort, notre présence a des implications profondes pour les autres. Tout au long de notre vie, nous comptons sur quelqu'un. Autrement dit, nous sommes en permanence confrontés à quelqu'un qui compte sur nous. Alors, il y a bien sûr ceux qu'on aime, mais il y a aussi nos employeurs et nos employés qui comptent sur notre travail, qu'ils soient rémunérés ou bénévoles. Il y a bien sûr les enfants que nous nourrissons, que nous habillons et que nous éduquons, mais il y a aussi nos parents dont nous prenons soin en juste rétribution de ce qu'ils ont fait pour nous et à qui nous devons au moins en partie ce que nous sommes. Bien entendu, tout ceci s'ajuste en fonction de l'histoire personnelle de chacun. Et par voie de conséquence, notre départ pour un monde que nous espérons meilleur a une incidence, pour autrui et cela ne doit pas être considéré comme une affaire qui ne regarde que nous seuls. Et Christiane Essel Chabri, j'aurais dû beaucoup de mal, hein, Essel Chabri, voilà. Christiane Essel Chabri, elle dit ceci, « disparaître dignement ». Il s'agit de quelque chose de complètement vide de sens. Je pose la question, il y aurait-il, à l'exception des morts violentes ou injustes, une manière indigne de disparaître ? Qui sont ces gens qui place de façon arbitraire le curseur de la dignité. Comme toujours, ce sont des gauchistes. Et les gauchistes sont des gens qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous et qui vous l'imposent. Et pour enfoncer le clou, feu désormais Christiane Essel nous parle de pusillanimité. Avec, bien entendu, la mauvaise foi du gauchiste. Elle vous explique que puisque cela se fait chez les voisins, si vous ne le faites pas, eh bien, c'est que vous manquez de courage. Or, c'est exactement le contraire. Ce n'est qu'en vivant qu'on peut surmonter les difficultés. Et c'est donc vivre malgré l'adversité, malgré la maladie ou le handicap, c'est ça qui est courageux, en réalité. Parce que dans le vivre, il y a toujours une part de don de soi. Qu'on me comprenne bien, dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement pour celui qui désire la mort pour échapper à de terribles souffrances. Je veux dire, ça existe. Mais ces notions échappent totalement, bien entendu, aux militants de la culture de mort. La militante se permet d'introduire les notions de poids. De poids, de droit, de liberté, de tolérance et de respect. Alors, vous n'imaginez pas combien cette notion de poids est dangereuse. Parce que, eh bien, c'est ce qui nous différencie des animaux. Dans la vie sauvage, la meute ne peut pas se permettre de porter un individu infirme qui rendrait vulnérable l'ensemble du groupe. C'est pourquoi le canard boiteux ou le loup blessé est exclu, voire pour certaines espèces, s'exclut eux-mêmes. La société humaine s'est efforcée, alors certes de manière très imparfaite, de faire une place aux individus les plus faibles. Dès lors qu'on introduit cette notion de poids, on met toute l'humanité en danger. Alors, bien sûr, les partisans de la culture de mort vous diront que cette notion s'applique à eux-mêmes, que c'est la personne qui évalue elle-même le poids qu'elle représente. Ouais, bon, c'est ça, prenez-nous pour des pélicans. Il finira toujours par y avoir une bonne âme pour suggérer à quelqu'un qui est faible qu'il est un poids pour les autres. Et voilà comment on exclut d'abord en douceur les plus faibles de notre société. Ensuite, il y a la notion de droit. Je dispose de mon corps comme je veux. J'ai le droit. Pour les devoirs, on verra plus tard. Hein. Sauf que ce sont les mêmes qui ont dénié aux autres le droit, par exemple, de ne pas se faire vacciner. Tout d'un coup, la disposition de soi-même, mon corps, mon droit, tout ça avait disparu comme par enchantement. Même chose pour la liberté. Ceux qui revendiquent la liberté de mourir refusent à ceux qui ne veulent pas du vaccin la liberté de vivre, tout simplement. Et puis, comme cette bonne femme a dû être dans sa vie une bonne pâtissière, eh bien, elle nous sert la tarte à la crème de la tolérance et du respect. Alors, vous devez comprendre que c'est toujours à vous de respecter et de tolérer, les idées des autres, enfin les idées des gauchistes. C'est normal, c'est elle qui fait progresser la société, pas vous, vous êtes débile. C'est elle qui est dans le camp du bien. Et mieux que ça, elle est le camp du bien. Vous, vous n'êtes qu'un frein au progrès.
Encore une fois, on peut être totalement en désaccord avec ça. Mais elle n'est pas la première et elle ne sera sûrement pas la dernière à faire ce choix. Vous savez que la loi sur la fin de vie a été stoppée par la dissolution. Michel Barnier voulait la relancer. Pas sûr que ce soit le choix de François Bayrou, lui qui déclarait l'année dernière à propos de la loi sur la fin de vie, vouloir défendre le caractère précieux de la vie jusqu'au seuil où elle s'en va, c'est ce qu'il disait, et d'ajouter « ne faisons pas un service public pour donner la mort ». Eh bien, quelles que soient les positions, je vous le redis, on n'échappera pas, comme tous les sujets de société, à un débat sur l'aide à mourir.
Quand Alba Ventura vous dit « on peut être en désaccord », comprenez que vous n'avez déjà plus le droit au désaccord. Quand Alba vous dit « on n'échappera pas à un débat », eh bien, comprenez que le débat, on vous l'impose à marche forcée. Or, ce n'est pas que le débat qu'on vous impose. C'est le résultat de ce débat. Alors, j'y reviendrai dans ma conclusion. Mais content de s'être débarrassé de Barnier, qui, non content d'être un mauvais gestionnaire, est aussi un ange de la mort, j'aimerais toutefois dire un mot sur la dissolution. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui spiritualisent à outrance. Toutefois, je vois dans cette dissolution qui arrête net l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie, un effet de la Sainte Providence. Pour moi, le message est clair. La fille aînée de l'Église doit tenir son rang et ne peut se permettre de se rouler dans cette fange. Les pays anglo-saxons et germaniques sont allés très loin, trop loin, mais le pays latin que nous sommes ne peut se permettre l'irréparable, en quelque sorte. Alors, cela ne veut pas dire que les choses sont bloquées à jamais, malheureusement. Les partisans de la culture de mort sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Et leur puissance ira jusqu'aux limites permises par Dieu. Mais permettre, ce n'est pas approuver. Donc l'intervention au moment précis où le législateur s'apprêtait à commettre quelque chose d'irréparable devrait sonner comme un avertissement sans frais. Or qu'on ne s'y trompe pas. Les avertissements de la Providence, si douloureux soient-ils, sont un effet direct de la bonté de Dieu. Et Bayrou, dans tout ça, me direz-vous, est-ce une sorte d'espoir ? Je précise que qu'à l'heure où j'enregistre, Bayrou est Premier ministre. Mais il n'est pas sûr qu'il le soit encore à l'heure où vous écouterez ce podcast. François Bayrou, bon, pour parler brièvement, c'est un politicien. Or, la notion de politicien est une notion trop méconnue. Un politicien de carrière n'a aucune conviction. Il n'a qu'un objectif, sa carrière. Il n'est pas un militant avec des idées, il est un militant de lui-même. Alors, quand il s'exprime, il ne pense pas, il s'adresse à telle ou telle partie de l'opinion, en fait. Hein? Donc, je soupçonne Bayrou d'avoir tout simplement voulu s'adresser à la partie de l'opinion délaissée par le reste de la classe politique. Autrement dit, je soupçonne Bayrou d'avoir tout simplement voulu, en quelque sorte, occuper un créneau laissé libre.
Il faut dire que ça a été assez loin. Il y a eu un débat à l'Assemblée, ça a commencé, et puis bon, comme vous le disiez, tout a été stoppé, alors qu'il y avait quand même un consensus
sur une avancée. Oui, sur le suicide assisté, notamment.
C'est regrettable qu'on ait eu autant de débats, qu'on ait enfin pu avancer, que ça soit gelé. Moi, je trouve ça tellement dommage, parce que vraiment, il y a eu quand même des positions qui se sont exprimées sur le sujet. Ouais. On avait enfin avancé un pion, il fallait vraiment saisir la balle au bon.
Et j'ai le sentiment qu'il faut que toutes les solutions soient sur la table. Voilà, développer les soins palliatifs et permettre peut-être aussi le suicide.
Et en parallèle, enfin, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque des soins palliatifs en France, il faut absolument développer cette unité.
Exactement.
Une preuve du bien fondé de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les partisans de la mort sont en rage. Surtout que, disent-ils, il y avait consensus. Alors, une preuve de plus, s'il en fallait, que ces gens sont complètement hors sol. Parce que pour imposer leurs convictions, leur argument est de dire « tout le monde pense comme moi ». Sauf qu'il est facile d'obtenir le consensus dès lors qu'on interdit ou qu'on fait taire toute voix discordante sur le sujet. Hein? Ils le font d'ailleurs avec à peu près tous les sujets. Quand vous empêchez par tous les moyens vos opposants de parler, vous obtenez quoi ? Le consensus. Quand vous invalidez d'office une opinion dissidente au motif qu'elle est exprimée par des fachos ou des intégristes, vous obtenez quoi ? Le consensus. Quand les gens, par peur de la mort sociale, n'osent plus exprimer d'opinions divergentes, vous obtenez quoi ? Le consensus. Et je pourrais comme ça aller de l'avant. Quand tous les journalistes disent la même chose pour pouvoir bouffer, ils obtiennent quoi ? Le consensus. Alors ils nous disent qu'ils avaient avancé un pion. Vous comprenez qu'ils avaient mis un pied dans une porte qui ne devait pas se refermer. Alors, je vous le dis, ils sont en rage. Voilà la preuve du caractère providentiel de cette dissolution. L'autre escroquerie, c'est cette histoire de soins palliatifs. Comme tout le reste du système de santé, les soins palliatifs tombent en déliquescence. Et j'aime autant vous dire que ce n'est pas prêt de s'arranger. Là où réside l'escroquerie, et c'est une preuve du caractère totalement diabolique du projet, c'est dans le mensonge sur le fait que l'euthanasie ou le suicide assisté serait permis parallèlement au développement des soins palliatifs. C'est un mensonge, parce que si les malades en fin de vie sont éliminés, la demande de soins palliatifs est, par voie de conséquence, appelée à baisser, voire à disparaître. En outre, l'absence de soins palliatifs ne peut que renforcer le désir de mourir des personnes en fin de vie mal prises en charge. Or, il y a bien, de la part des partisans de la culture de mort, une volonté de stimuler le désir de mourir, puisque en réalité c'est leur fond de commerce. Alors, je n'ai pas le temps malheureusement de développer ici, mais il n'y a qu'à voir la publicité qui est faite autour de cas analogues à celui de Christiane Essel Chabry. Ouais, j'y suis arrivé. À l'inverse, une bonne prise en charge des soins pour des soins pour lesquels il ne peut être envisagé de guérison du patient, fait disparaître le désir d'en finir au plus vite. Le compositeur Frédéric Chopin aurait dit, au moment de mourir, que c'était une faveur que Dieu faisait à l'homme en lui dévoilant ses derniers instants. Une fin de vie apaisée, c'est aussi une grâce. C'est l'occasion des bilans, des réconciliations. C'est peut-être aussi un moyen de faire aussi, la somme de tout ce qu'on veut laisser à ses proches. Et c'est bien de cela, en réalité, dont veulent nous priver les maçons mondialistes. Pourquoi ? Parce que la mort est leur fond de commerce. Parce que derrière, il y a la grande alliance du gauchisme et de la finance. C'est certain, la piqûre coûte moins cher que toute une équipe de thérapeutes qui va se relayer pour soulager le malade qu'on ne peut plus guérir. Et c'est vrai que ça coûte des sous, une structure où se relaient au chevet du patient des spécialistes de la douleur, des psychologues, des écoutants, des familles qu'il faut accueillir. Et c'est pas donné, un lit occupé Dieu sait combien de temps par un malade qui ne se décidera pas à débarrasser le plancher. En plus, il arrive que des soins palliatifs aboutissent à des rémissions, voire à des guérisons inattendues. Et tout ça prolonge la prise en charge, et c'est inacceptable. C'est inacceptable pour ceux dont le cœur n'est que l'article de triperie. C'est inacceptable pour ceux dont la politique ne se fait qu'avec des colonnes de chiffres. Le suicide assisté et l'euthanasie auront pour effet de faire reculer la science. Parce que les progrès de la science ont toujours eu pour effet de guérir les incurables d'hier. Or, comment les incurables d'aujourd'hui pourraient être les guéris de demain si la société, par confort, par conformisme et par cupidité, faisait le choix de les éliminer. Avant de vous souhaiter de sainte fête de Noël, je veux sincèrement, du fond du cœur, vous remercier de votre fidélité au podcast et aux articles parus tout au long de cette année. Pour continuer à vous proposer du contenu, j'aurai besoin de votre aide. Alors, non pas financière, mais plutôt sous forme de suggestions, de propositions de contenu. Je me bats beaucoup pour trouver des gens à interviewer, pour rapporter du contenu original. Si je devais me rendre compte que l'offre est à peu près en tout point semblable à l'offre déjà abondante, il est évident que je ne pourrais qu'en tirer les conclusions qui s'imposent. Et puis, bien entendu, pour les croyants qui ne sont pas l'exclusivité de ceux qui me lisent ou qui m'écoutent, sachez que la prière est une aide précieuse et efficace. Mon dernier mot, en rapport au sujet, plus ou moins, sera aujourd'hui pour ceux qui abordent Noël, alors qu'ils sont isolés, malades, déprimés, ou que sais-je encore, qu'ils sachent que malgré la gravité des sujets abordés ici, j'essaie, avec mes pauvres moyens, certainement avec une grande maladresse, de transmettre de la chaleur et de l'espoir. Bonne et sainte fête de Noël à tous. Merci.